maison-là.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h21 ce soir dans le Club des Idées, quand le confinement nous fait disjoncter. C'est l'un des effets notables dont on parle peu en ce moment. Comment la crise sanitaire modifie nos comportements et notre santé mentale? Les dépressions ont ainsi doublé en un mois. La santé mentale des Français s'est dégradée fortement, a dit tout à l'heure le ministre Olivier Véran. Les chiffres sont très inquiétants. Cette épidémie de Covid génère une souffrance psychologique pour beaucoup d'entre nous. Alors comment y faire face? Quels sont les bons conseils pour éviter de broyer du noir et garder une forme de positive attitude? On en parle donc ce soir avec Catherine Tourette-Turgy. Bonsoir, vous êtes experte en psychosociologie, professeure à Sorbonne Université et chercheuse au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers. On en parle également avec le professeur Antoine Pellissolo. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes psychiatre et chef de service à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, membre de la Fondation Fondamentale. Et on en parle également avec le professeur Emmanuel Hirsch, président du Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique de l'Université Paris-Saclay et directeur de l'espace éthique de la région Île-de-France. Et je crois que vous êtes aussi l'auteur de Pandémie 2020, éthique, société, politique, aux éditions du CERF, paru en octobre 2020, il y a tout juste un mois. Alors, première question, peut-être pour vous, professeur Emmanuel Hirsch, est-ce que toute la population est touchée de la même manière? Est-ce que tous les Français sont touchés par ce coup de blues? Je crois que ce sont principalement les jeunes et les seniors qui en subissent en premier les conséquences.
On aura le propos du psychiatre, moi c'est plutôt l'approche éthique. On est vulnérable, c'est-à-dire ce qui caractérise cette crise, c'est la vulnérabilité,
oui,
et le côté indéterminé de ce qui se passe, puisque l'avenir est un peu incertain. Et donc, selon effectivement sa position sociale, le contexte dans lequel on est vu, on voit à quel point les personnes très vulnérables, socialement démunies, sont plus exposées, bien sûr, parce qu'elles sont déjà vulnérables par nature à tous les risques, qui sont les risques économiques, les risques sociaux, puis les risques de contamination. Donc moi, le premier point pour moi caractéristique, c'est comment une situation de crise révèle nos vulnérabilités, y compris d'ailleurs dans la gouvernance.
Oui.
Parce que, effectivement, le discours politique aura tendance à être protecteur, à donner un certain nombre de repères et même proposer des mesures qui évitent finalement que la pandémie prenne des proportions qui, à un moment donné, sont incontrôlables. Mais même les politiques sont vulnérables. On voit, oui, qu'ils ont fait des projections et que les projections sont précaires. Donc voilà, c'est l'environnement général,
oui,
qui fait qu'on se demande à qui s'en remettre. Vous voyez, il y a eu toutes les polémiques sur les scientifiques, par exemple. Ça a été aussi extrêmement déstabilisant, voire une controverse scientifique. Demain, il y aura, on espère, le vaccin. Est-ce qu'il sera sécurisant ou pas? C'est-à-dire, est-ce que les mesures de mise en œuvre du vaccin apporteront de la confiance? Voilà. Et je termine juste sur ce point, Julien Bugier. Je crois que derrière l'inquiétude la plus profonde, pour moi, existentielle, c'est la perte de confiance. Voilà. On est dans un moment de défiance et de crise de l'autorité. Et je pense qu'on a besoin aujourd'hui de repères en termes de communication. Par exemple, une émission comme la vôtre, elle est importante de ce point de vue-là. Communiquer, trouver des mots humains, ne pas être aussi toujours dans des discours très péjoratifs, dans les mots qu'on emploie qui tuent. Vous voyez, de dire il y a les essentiels par rapport à ceux qui ne le sont pas.
Oui.
Imaginez l'impact sur un commerçant, sur une personne qui a entrepris dans sa vie d'exister socialement et qui importe pour nous, et on dit du jour au lendemain, il y a les essentiels et ceux qui ne sont pas. Voilà, donc pour être générique, je dirais, je pense qu'on est précaire, vulnérable, incertain, il faut trouver des forces.
Alors, même question, professeur Antoine Pellissolo, sur le constat d'abord. C'est vrai que les chiffres, quand on les regarde froidement sur le papier, font froid dans le dos, c'est le cas de le dire. Hein. Santé publique France nous dit que le taux de dépression est passé de 10% fin septembre à 21% début novembre. Les jeunes et les précaires seraient les plus concernés, avec respectivement une hausse de 16% et de 15%. Et tout à l'heure, le ministre Olivier Véran, qui tenait sa conférence de presse, nous a dit qu'il y avait 200 000 appels à la plateforme dédiée pour les troubles psychologiques pendant cette crise du Covid. 200 000 appels par jour.
Alors, ces 200 000 personnes, je pense qu'elles sont sûrement représentatives de toute la population. Parce qu'il n'y a pas des personnes qui seraient complètement à l'abri. Hein. Il faut pas avoir cette illusion-là. Mais c'est vrai que les plus fragiles, habituellement, c'est ceux qui sont isolés, précaires, malades. Et là, on le retrouve chez les jeunes, en effet, étudiants isolés, chez les personnes âgées isolées, chez les personnes malades, et chez les personnes qui ont, d'une manière ou d'une autre, une inquiétude sur leur avenir.
C'est inédit. C'est inédit, un tel niveau de trouble.
Ce niveau-là, c'est-à-dire qui touche tout le monde, hein, puisque tout le monde est dans le monde entier est exposé, c'est évident que c'est inédit. Et les manifestations, d'une certaine manière, elles sont pas très surprenantes. Alors, quand on parle de 20% de personnes déprimées, avec les mesures qu'on a, ce sont des symptômes dépressifs. Heureusement que ce ne sont pas toujours des dépressions majeures, graves. Mais dans tous les cas, un message qu'on peut faire passer, au-delà des besoins d'accompagnement qui sont indispensables, c'est de ne pas hésiter à consulter quand on a ces symptômes-là, parce que souvent, il y a besoin d'une aide.
Alors, question à vous, Catherine Tourette-Turgy. quels sont les facteurs de cette grande déprime? Est-ce que c'est le manque de lien social? Est-ce que c'est l'enfermement? Est-ce que c'est la peur de la précarité? Ou est-ce que c'est tout ça un peu à la fois?
Ben, oui, on peut dire que c'est tout ça. Puis en même temps, quand on a dit cela, on a du mal à s'y repérer. Je crois que, pour reprendre ce que disait Emmanuel, on ne peut pas gouverner de manière autoritaire un problème de danger de société. Par exemple, moi je travaille sur la prévention, ben on s'aperçoit qu'on ne gagne pas de la prévention si on n'a pas d'empathie, si on n'a pas de bienveillance, si on ne fait pas confiance. Dans les études, j'ai vu que les systèmes qui font de la prévention de manière autoritaire, ben ils obtiennent des scores effectivement soit de réactance, c'est-à-dire oui. Les gens se révoltent, soit de déprime parce qu'ils se sentent impuissants. Donc ce qu'il faut qu'on puisse saisir, c'est comment mettre en place une prévention en faisant confiance. Par exemple, il y a des études qui montrent que si vous dites à quelqu'un « le masque, c'est pour te protéger toi-même », ça ne marche pas. Mais si on dit « le masque, c'est pour protéger les autres », ça fonctionne. Mmh. Donc il va falloir qu'on s'appuie sur la présence chez les êtres humains en société, justement, de facteurs relationnels, de facteurs vers autrui, du prendre soin en partage.
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a vu qu'il y avait un changement de communication qui va dans le sens de ce que vous dites, madame, du gouvernement. On a vu des affiches partout dans les rues, des campagnes de sensibilisation à la télévision, où il nous a été dit que le masque c'était aussi pour protéger les autres, donc je pense que de ce point de vue-là, le message a été compris aussi par le gouvernement. Vous restez avec nous, 19h28, on continue d'en parler avec nos invités, à tout de suite.
Sur Europe 1, passez de bons matins.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Europe 1.
De 7h à 9h, réveillez-vous, informez-vous avec Mathieu Béliard.
C'est une information qu'Europe 1 vous dévoile ce matin.
À 7h50 et 8h40, Nicolas Cantelou fait ses numéros.
Bonjour à toutes et à tous.
Et à 8h15, l'interview politique, c'est avec Sonia Mabrouk.
Europe 1, écoutez le monde changer.
À demain, 7h, sur Europe 1.
Chez BNP Paribas, nous savons qu'on est plus fort quand on est bien accompagné. Nos conseillers et nos chargés d'affaires sont là pour répondre à toutes vos questions et vous apporter des solutions adaptées, à distance ou en agence. BNP Paribas, engagé à vos côtés.
À tous ceux qui, comme nous, souhaitent soutenir les maraîchers français en ces temps difficiles. À ceux qui savent que c'est beaucoup grâce à eux si nous pouvons continuer à bien manger tous les jours. Et puis aussi à ceux qui n'avaient pas prévu de faire une bonne action, mais qui se disent que ça tombe bien, parce qu'une petite salade de mâche, avec des noix et du roquefort, c'est rudement bon. Pour soutenir les producteurs de mâche, Intermarché propose la barquette de 150 grammes de mâche française à prix coûtant, soit 85 centimes. Intermarché, tous unis. Soit 5,67€ le kilo, offre valable aussi chez Netto, modalité magasin et drive participant sur intermarché.com.
Retrouvons François Vidal, directeur délégué de la rédaction du journal Les Échos.
Tout ce qu'il faut savoir pour placer votre argent de manière durable et rentable. L'immobilier vert est-il un bon investissement? Quels sont les contrats d'assurance vie les plus vertueux? Comment construire un portefeuille responsable? Tous les conseils de la rédaction des Échos, c'est demain dans un supplément spécial placement.
Les Échos, reprenez un temps d'avance.
Optique 2000, pour moi les meilleurs opticiens. À la Monteille, à Échirol, dans l'Isère, nous dit pourquoi.
Bon, j'avais besoin de lunettes, j'avais pris rendez-vous qu'on ne faisait pas avant. Il y avait du gel hydroalcoolique, un parcours au sol, des plexiglas sont montés sur le comptoir. Donc on peut essayer les lunettes sans les masques. Les tests de vision, c'est fait à distance. Il n'y a pas de contact physique. Une fois qu'on est dans le magasin et qu'on voit que tout se passe bien, on n'a plus ce sentiment d'insécurité. Je trouve ça formidable.
Nathan Cohen, opticien optique 2000 de M. Monteil, à Échirolles, dans l'Isère.
Dans notre magasin, nous sommes des opticiens professionnels. La santé de nos clients est notre priorité. Donc nous avons mis en place le maximum de gestes barrières. Et comme optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, nous irons tous les papiers.
Alors M. Monteil, content d'optique 2000?
Oui, prêt. Et en plus, il s'occupe de tous les papiers. Pour moi, c'est parfait.
Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous.
Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien.
Peugeot Service s'engage pour votre mobilité.
Aujourd'hui et plus que jamais, vous devez pouvoir compter sur votre véhicule pour effectuer vos trajets essentiels. C'est pour cela que le réseau Peugeot Service se mobilise, pour assurer votre mobilité. Nos ateliers sont ouverts et nos experts sont présents pour entretenir et réparer votre véhicule dans le respect de mesures sanitaires renforcées. Vous pouvez compter sur le réseau Peugeot Service.
Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h30, le Club des Idées se poursuit. Le grand débat ce soir consacré aux chiffres très inquiétants de la santé mentale des Français qui s'est fortement dégradée. On évoquait les chiffres de Santé publique France qui montrent que le taux de dépression, par exemple, est passé de 10% fin septembre à 21% début novembre. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a d'ailleurs longuement parlé tout à l'heure lors de sa conférence de presse. Et il y a quelques jours, Jérôme Salomon, directeur général de la santé, disait à peu de choses près la même chose.
Santé publique France révèle aujourd'hui que la santé mentale des Français s'est de nouveau dégradée entre fin septembre et début novembre. On observe ainsi une augmentation importante des états dépressifs. Le nombre de personnes concernées a en effet doublé entre fin septembre et début novembre. Cette hausse est observée dans l'ensemble de la population, mais s'avère encore plus marquée chez les personnes en situation financière très difficile, les personnes ayant des antécédents de troubles psychologiques, les inactifs et les jeunes.
Professeur Antoine Pellissolo, comment est-ce qu'on sait si on est dans un état dépressif ou si un proche est dans un état dépressif ?
Alors la dépression, c'est un ensemble de dérèglements qui surviennent, moi je dis souvent, en même temps. Et c'est ça qui fait la différence entre une baisse de morale passagère qu'on a tous connue et un état dépressif maladie qui nécessite en tout cas souvent des soins.
Mais ça peut arriver d'un coup d'un seul ?
Oui, parfois, mais souvent c'est quand même assez progressif sur quelques jours au moins. Et donc c'est en même temps le sommeil qui se dérègle, l'appétit qui se dérègle, les envies surtout, les envies et le plaisir qui se dérèglent, donc un état de tristesse, des choses qui isolément ne seraient pas forcément très alarmantes, mais en même temps, ce qui fait que vous changez, vous êtes quelqu'un d'autre, et vous n'arrivez plus, à un degré variable hein, selon les cas, mais à vivre normalement. Et ça, je crois que c'est parfois caractéristique et tout le monde s'en rend compte. Et puis, dans d'autres fois, c'est un peu masqué parce qu'on essaye de se battre, on fait face, on ne veut pas trop s'écouter, comme on dit. Et c'est là le problème parce que souvent, on s'use et c'est souvent physiquement aussi qu'au bout d'un certain temps, le corps...
On évoquait tout à l'heure, professeur, les facteurs qui favorisent ces dépressions. Encore une fois, c'est le manque de lien social, c'est la peur de la précarité et de l'avenir.
Alors, il y a malheureusement en ce moment à la fois la peur, la peur de la maladie quand même, évidemment. Il y a aussi des gens qui sont très effrayés par le virus, hein, évidemment, depuis des mois.
Et donc, c'est une influence sur leur état psychologique.
Pour certains, c'est un facteur de stress majeur, d'angoisse d'abord et de dépression ensuite. C'est souvent ça, malheureusement, l'enchaînement. Donc, la peur de la maladie, la peur de l'économie. Il y a des gens qui ont perdu déjà leur travail ou qui ont peur de le perdre. Donc, ça fait un deuxième facteur de stress. Et en plus de ça, il y a des facteurs en moins qui sont d'habitude des piliers de la santé mentale, santé psychique. Ce sont effectivement le lien social et toutes les occasions de divertissement qui d'habitude permettent de faire du sport, de sortir, d'avoir des activités de plaisir qui sont malheureusement quasiment absentes.
Il y a aussi eu, je me permets de dire, la violence de certaines décisions. Quand on vous parle de triage, pour prendre un exemple, quand on vous parle des conditions de vie dans un établissement comme un EHPAD, même s'il y a eu des choses remarquables qui se sont faites, toutes les ruptures par rapport à vos valeurs, par rapport à vos traditions, à quoi vous êtes attaché, regardez l'impact qu'a eu le fait de ne pas pouvoir faire des obsèques, pour prendre un exemple précis, ou les conditions de la mort à l'hôpital. Donc il y a tout ce qui donne prix à notre existence, tout ce à quoi on est attaché, toutes ces valeurs qui nous permettent de résister, de lutter.
Vous êtes en train de dire, professeur, que même si on n'est pas touché d'une certaine manière directement, le contexte anxiogène...
Bien sûr, parce que les choix qui sont faits... Et on a eu encore la chance dans notre pays qu'on a eu un discours politique qui dit on n'abandonnera pas les gens sur le bord du chemin.
Oui.
Mais en pratique, ce que les gens ont vu, c'est quelles que soient les mesures économiques d'accompagnement de la crise, la peur de perdre un emploi et d'être, j'allais dire, dans des situations insurmontables, le fait de ne pas avoir vraiment d'avenir. Vous voyez, ce qui manque dans le discours politique, qui à certains égards est rassurant parce qu'il y a quand même des mesures qui sont prises, c'est un projet et une certaine forme d'espérance, d'un après.
Le fameux cap.
Voilà, un après. Alors il y a des gens qui sont investis en disant on est en train de transformer la société, ils voient les aspects positifs.
Oui.
Je vais juste terminer sur un point, je ne vais pas mobiliser la parole, mais moi ce que je trouve extrêmement positif, c'est toutes les mobilisations qui ont eu lieu. Et on a parlé de la France des invisibles, qui ont été extrêmement créatifs. Ça nous permet de nous réconcilier avec les valeurs de la démocratie.
Mmh.
Et vous voyez, s'il y avait un conseil à donner aux dirigeants aujourd'hui, démocratisons en quelque sorte l'approche de la pandémie. Le fait d'avoir été exclu de la décision,
que
les décisions elles se prennent d'en haut. Et se prennent, j'allais dire, dans des conseils un peu confinés, ça c'est une insulte faite à la vie démocratique. Et si on veut recréer une espèce de dimension, de dynamique collective, de valeur du bien commun, comment refaire société aujourd'hui, c'est l'enjeu de fond, pour éviter, j'allais dire, la désespérance, c'est un vrai projet politique, et personne aujourd'hui l'incarne réellement. En tous les cas, c'est mon sentiment.
Catherine Touraturgie, vous êtes experte en psychosociologie. Allez-y, vous vouliez réagir.
Oui, mais c'était pour aller dans le même sens, en fait... On a besoin d'une pédagogie émotionnelle. Il faut commencer à voir comment on va se rétablir ensemble. Vous voyez, là, j'ai trouvé quelque chose parce que je fais sans arrêt des recherches. Mon héroïne, c'est toi. Comment combattre le Covid quand on est enfant? On s'aperçoit, par exemple.
C'est un dessin d'un petit dragon, c'est ça?
C'est un petit livret pour parler aux enfants. Pour parler aux enfants. D'ailleurs, c'est ce qu'elle avait fait en Suède de la. L'équivalent de la première ministre avait fait. Dit, moi, je fais une conférence de presse pour les enfants. Il faut parler aux enfants. Les Anglais ont commencé à sortir quand même une étude sur les tentatives de suicide d'enfants de moins de 15 ans.
Mmh.
Donc on voit aussi que il y a toutes ces personnes qu'on a citées, mais il y a toujours quelque chose d'autre.
Je me permets une parenthèse, parce que vous touchez du doigt un problème qui dépasse le cadre de notre débat, qui touche à l'école, mais c'est un sujet que j'aime beaucoup, qui est qu'on est dans une société en France où l'école est décorrélée de ce qui se passe à l'extérieur de son sein, des établissements. Ce que vous dites est très intéressant, c'est-à-dire que l'école suédoise s'est mise au diapason de la pandémie.
Et ce qui est important, par exemple, avec ce type d'ouvrage, c'est à l'école, à l'université, faire cours sur le Covid. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une épidémie. Moi, j'ai travaillé plus de 20 ans dans l'épidémie de VIH/SIDA. C'est une épidémie qui était mise en récit, en narrativité. Là, c'est une épidémie froide. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas de mise en récit. On ne sait même pas qui ils sont. Il n'y a pas de témoignages, etc. Donc, pour les enfants, d'ailleurs, comme dans cet ouvrage, ils s'endorment le soir, mais ils sont complètement insécurisés. Il y a même un texte du CDC qui dit, pour les enfants, si vous sentez qu'ils sont trop anxieux, il faut faire quelque chose.
C'est vrai que c'est un élément hallucinant quand on le regarde rationnellement, professeur Antoine Pellissolo. C'est-à-dire qu'à l'école, moi j'ai des enfants, on ne parle pas du tout du Covid. Les enfants ont des masques, les enfants se lavent les mains, les enfants mettent du gel hydroalcoolique, donc ils voient qu'il y a un changement qui s'est opéré, mais on n'en parle pas, on ne libère pas la parole.
Alors c'est l'effet de sidération, je crois malheureusement, qui touche tout le monde, parce que même si ça commence à durer depuis quelques mois, personne n'avait le mode d'emploi à l'avance. Et il faut aussi quand même saluer les enseignants qui font un travail très difficile en ce moment.
Bien sûr.
Et c'est vraiment une démarche.
D'avoir un projet pédagogique qui tout d'un coup passe en mode Covid, où une fois par semaine, on explique comment ça fonctionne une maladie, quels sont les risques, comment s'en prémunir.
Alors ça, c'est un des défauts qu'on a en France, c'est le manque d'éducation à la santé, encore plus à la santé psychique, évidemment, ce qui est mon domaine, mais c'est clair qu'il va falloir renforcer tout cela. Et comme vous disiez, on n'en parle pas dans le programme, mais les enfants, si vous en avez, ils parlent que de ça aussi, parce que évidemment, ils sont touchés et ils auraient envie d'en parler.
Alors nous, on a développé juste des initiatives. L'espace éthique de la région Île-de-France travaille avec des enseignants. On a un module de formation d'abord des enseignants aux enjeux sociétaux. Mais ce qu'on comprend aussi, c'est qu'on touche à l'intime quand on parle du Covid. C'est pas uniquement une approche biologique en termes de chiffres. Ce qui était aussi très dangereux, c'est un discours quantitatif. Alors que derrière, il y a des personnes, il y a eu des deuils, tout ça a été enfoui. Il faut que la parole, et c'était très juste ce qui a été dit, apparaisse. Mais j'ai juste une observation par rapport à l'école. Il y a maintenant des défis importants. Il va y avoir les tests dans les écoles. Comment les jeunes vont adhérer ou pas. Et quand on parle des écoles, entre les écoles dans un quartier assez privilégié et les écoles dans des quartiers où il y a des gens qui ont déjà la vulnérabilité, on l'a vu, la fonction républicaine de l'école, quand il y a eu le confinement et des jeunes ne pouvaient plus se nourrir parce qu'ils n'allaient plus à l'école. Tous ces éléments bout à bout montrent la responsabilité d'investir ce champ.
Alors j'ai une question très terre à terre à vous poser, professeur Emmanuel Hirsch. La fin des poignées de main, la fin des bises, la fin du fait de se prendre dans les bras, ça ne paraît rien, mais est-ce que ça aussi, ça joue?
C'est pathétique. Vous voyez, moi, je vais régulièrement dans les EHPAD, dans mes fonctions. Ce qui a été le plus traumatisant pour les familles, c'est de ne plus pouvoir caresser, de ne plus pouvoir toucher. Vous savez, le contact, y compris pour les professionnels. Donc, c'est toute cette symbolique, c'est tout cet attachement, c'est toute cette manière de témoigner à l'autre qu'on est présent, d'une manière charnelle, physique, puisque c'est malheureusement ça qu'on doit mettre un peu en parenthèse.
Et ça, c'est quelque chose qu'on pourra retrouver
De toutes les façons, déjà, on voit le sens, et c'est ça qui est intéressant aussi, la valeur de la relation. Vous voyez, ça m'a beaucoup frappé. Moi, je regarde les aspects plutôt positifs. Pendant des années, on nous a dit l'EHPAD, c'est le mouroir. On a vu que c'était un lieu de vie où il y avait des projets et que tout ça était important. Donc, je vois qu'on va reconquérir, comme l'économie, j'espère, va reconquérir un espace. On va reconquérir d'abord des lieux de sociabilité. Juste un point qui m'a frappé. On n'avait pas le sens de la valeur du petit commerce, du café, enfin de ces lieux qui sont importants, de la culture.
Oui.
Et là, je pense qu'il y a une envie. On a fait l'expérience de ce qui nous était indispensable.
Oui.
Eh bien, on va sortir, à mon avis, de cette crise, je l'espère, en ayant cette intelligence. Et ce que je regrette, j'ai mis sur ce point...
Ce qui est important, c'est qu'on n'ait pas une amnésie collective dans...
Oui, non, mais on l'aura pas. On l'aura pas. Et le malheur, si on veut, et je le dis clairement, c'est qu'il n'y a pas cette intelligence du politique. Vous voyez, dans les arbitrages des choix, il aurait fallu être plus judicieux. Qu'est-ce qui importe ou pas dans une situation de crise? S'il n'y a pas des lieux où on peut en parler, s'il n'y a pas des lieux où on peut se projeter, s'il n'y a pas des artistes qui nous apportent de la culture, qui nous apportent de la beauté, on est effectivement dans le trou et on n'a plus qu'à aller finalement voir le psychiatre. Et moi je pense qu'il faut une approche aussi politique et qu'on a tout un ensemble d'atouts. On a une approche finalement très religieuse, très compassionnelle et très cathartique finalement de la pandémie.
Alors,
c'est un masochisme.
Je voudrais qu'on dise, professeur Antoine Pellissolo, encore un mot, vous êtes psychiatre et chef de service, je voudrais qu'on dise encore un mot des jeunes, pas des tout petits là, mais des plus jeunes, parce que là aussi j'ai découvert les chiffres qui sont assez éloquents. Un état dépressif touche un quart de la jeunesse aujourd'hui dans les grands chiffres qui circulent et qui aura, nous dit discute-t-on des répercussions, vous allez me répondre, post-confinement, et on découvre que ces jeunes aussi ne sont pas assez accompagnés. Je ne savais pas, mais la France accuse par exemple un retard considérable dans l'accompagnement des jeunes. Aux États-Unis, on compte un psychologue pour environ 1600 étudiants. En France, c'est un pour 30 000. Comment est-ce que ces jeunes vont-ils se remettre de tout ça?
Alors, on va positiver et penser que ça va être possible, mais c'est clair qu'aujourd'hui, ils cumulent les facteurs de à la fois d'isolement, de stress, de perturbation dans leur scolarité depuis déjà, c'est la deuxième année. Ils ont des cours à distance. C'est très compliqué de suivre des cours à distance quand on n'est pas motivé par l'enseignant qui vous relance. Ils ont perdu leurs liens sociaux là, et on les a accusés d'en avoir trop pendant l'été, donc c'était encore une cause de
culpabilisation. Et comment on peut les accompagner pour tous les parents qui nous écoutent?
Alors, je crois que vraiment les accompagner, au moins leur laisser la parole, ça me paraît évident, parce que il y a cette espèce de repli sur soi. Donc leur donner la parole, et ils en ont besoin, ils ont envie de l'apprendre, créer des conditions d'échange, pour toute la population. Je pense que les aides viennent beaucoup de l'entraide, justement, de l'entraide, de la solidarité. Et je pense qu'il faut soutenir les associations, par exemple, les associations qui viennent aider les familles, qui viennent aider les jeunes. Alors, elles sont souvent à l'arrêt, malheureusement, pour des raisons sanitaires, mais c'est sûrement le levier majeur, je pense, pour redonner du souffle et redonner des perspectives. Parce que la grande souffrance des étudiants, ils disent, on travaille en ce moment, on ne sait pas pourquoi, on aura pas de boulot, notre diplôme, on ne sait pas ce qu'il va valoir. Enfin, il va falloir être très très présent sur cet accompagnement.
Catherine Tourette-Turgis, je disais tout à l'heure avec un peu de malice, est-ce qu'on peut donner des clés pour les gens qui nous écoutent pour garder une positive attitude et essayer de redresser la barre quand on est dans un état dépressif ou déprimé, tout du moins?
De toute façon, il y a plein de choses. Par rapport aux jeunes, moi j'ai une promotion qui arrive en janvier. L'idée, c'est de mettre dans le distanciel le relationnel et l'émotionnel. Donc, qu'est-ce qu'on fait depuis deux mois? Eh bien, on les appelle. Ils ne sont pas encore nos étudiants, mais un petit signe, comment ça va? Puis on invente qu'on a besoin de savoir s'ils se débrouillent bien avec, je ne sais plus moi, quelqu'un.
Donc, toujours et encore le lien.
Le lien.
Oui.
Le lien. Et alors, quand on ouvre, comment ça va? Alors là, il y a beaucoup de choses. Donc, je crois que c'est ça qui est important. Peut-être qu'aussi, il va falloir inventer, peut-être parrainer des jeunes. C'est-à-dire inventer que on dit bien, moi je sais pas, moi j'ai vécu aux États-Unis, il fallait, on pouvait adopter un autoroute, ça serait peut-être mieux de faire un parrainage de jeunes étudiants.
Oui.
Moi je suis volontaire, plein d'autres autour de moi, enfin une génération qui dit tiens, on va parrainer des jeunes, ça ne coûte pas d'argent.
Le grand problème, c'est quand on parle des jeunes, on pense que c'est une catégorie globale. Enfin, je veux dire, vous avez des jeunes d'abord qui sont aussi investis dans la lutte, dans le combat.
Oui.
Et qui vivent très mal le fait qu'on stigmatise les jeunes comme des irresponsables. Et je pense qu'il faut avoir une vision aussi un peu plus fine des choses. Il y a des jeunes qui sont dans des situations plus vulnérables que d'autres, en quelque sorte plus vulnérabilisés. C'est aussi ce que nous révèle cette pandémie, qu'on le veuille pas. Si vous vous trouvez dans un environnement très dépeuplé, très défavorisé, très précarisé, effectivement, la pandémie ajoute de la précarité. Et je pense qu'il y a des nouvelles solidarités à inventer.
Mais est-ce que, pour aller plus loin, Emmanuel Hirsch, est-ce que cette pandémie et la manière dont on va en sortir dans 6 mois ou dans 1 an, est-ce qu'elle va changer durablement nos normes sociales, nos liens sociaux, la façon dont on se comporte les uns avec les autres, peut-être dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, mais aussi cette résilience, cette bienveillance dont on parle tant en ce moment?
Moi, personnellement, je le pense.
Et dans quel sens?
Je pense qu'on va réinventer comment on fait société. C'est-à-dire, si on veut surmonter le long cours, parce que c'est pas uniquement parce qu'on aura un vaccin qu'on va sortir de la crise. La crise, elle est endémique, elle est révélatrice de beaucoup d'autres dysfonctionnements que ceux occasionnés par le virus. Donc on sait que c'est quelque chose de systématique. Donc je pense qu'il faut réinventer la relation à l'autre, son précieux, son prix. Et je pense qu'on a vu...
Réinventer, ça passe par quoi concrètement?
Réinventer, je termine là-dessus, mais je vous laisse la parole, mais notamment au niveau du politique.
Oui.
Il y a à renouveler, j'allais dire, le discours politique et créer un véritable projet, une vraie mobilisation. Et la mobilisation, c'est pas uniquement accéder au vaccin. C'est refaire société. Alors, je pourrais développer, mais je préfère entendre
un petit gars
s'il y a des éléments plus.
On est bien d'accord sur l'aspect de l'entraide, de la solidarité et du lien. Et puis, il y a une thématique qui est celle des générations qui viennent et qui est d'autant plus d'actualité aujourd'hui, c'est la thématique de l'environnement. Et je crois que cette catastrophe nous montre bien que l'enjeu est là, que même si c'est pas le climat en ce moment, mais c'est une pandémie qui a un rapport quand même avec l'environnement. Et donc il va falloir que les générations qui viennent, qui en sont déjà convaincues, on les aide et qu'on se transforme encore plus pour la préservation de notre environnement. Et ça, c'est des valeurs qui vont quand même pouvoir être, des motivations pour tout le monde et notamment pour les plus jeunes.
Catherine Tourette-Turgis, même question. comment est-ce qu'on fait société demain et qu'on se reconstruit tous ensemble après ce grand blues qu'on aura connu et dont certains mettront sans doute, professeur, vous confirmez, du temps à se remettre.
Je pense que d'abord on va être en rémission avant d'être en rétablissement. C'est-à-dire quand on dit ça va être fini dans 6 mois, c'est faux. Quand on prend la crise des impacts humains dans les catastrophes naturelles, c'est 18 mois à 3 ans après la résolution 1 de la crise sanitaire, 2 de la crise économique. Donc déjà, il faut anticiper le fait que les choses qui se sont passées, je ne sais pas, moi, imaginez concrètement, je vais vous donner une situation, quelqu'un qui a divorcé pendant le confinement,
oui,
c'est quand même
oui.
7%. Bon, après, il faut qu'il s'en remette. Quelqu'un qui a perdu son travail, il faut qu'il s'en remette. Mais tout ça, ça veut dire une reconstruction de soi, une transformation. Donc, un accompagnement. Deux, avoir vraiment un dispositif de rétablissement. Les rétablissements, c'est sur plusieurs dimensions. Et ça dure beaucoup plus longtemps que l'arrêt brutal comme ça et du ça va prendre du temps, mais grâce au temps, et là on pourrait aussi reprendre ce qu'a dit Emmanuel, ça va nous donner aussi accès à d'autres temporalités.
Professeur.
Oui, alors un petit mot qui est plus sur le plan je dirais sociétal et des soins qu'on peut apporter aux personnes qui sont en souffrance, parce que le gouvernement l'a souligné, mais nous on va être obligé de dire on n'a pas nous les moyens en tant que service de soins psychiatriques et professionnels d'aider suffisamment avec les moyens qu'on a. Et je crois que bon, il serait bon que les pouvoirs publics actent cette situation.
J'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience là,
on
qui s'opère depuis quelques semaines.
Années, oui, mais est-ce que les moyens vont oui. suivre? Parce que pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas, malheureusement.
Ce que vous dites est d'une grande justesse.
Le mot de la fin,
mais, oui, on ne peut pas médicaliser la réponse sociétale à cette crise. C'est-à-dire on ne va pas apporter le soutien psychologique comme on fait chaque fois qu'il y a une crise.
Mais il le faut quand même en
oui,
plus.
Non, il le faut. Il est essentiel pour certaines personnes, mais il ne faudrait pas qu'on surpathologise la société. Et à mon avis, il faut trouver les forces, à mon avis, dans la démocratie, dans la vie démocratique, dans le débat, dans la participation, par exemple, aux décisions sur le vaccin, par exemple. Comment aujourd'hui on va faire des choix de société par rapport aux jeunes, par rapport aux anciens. Donc je dis que ça demande également une dimension culturelle oui. et une dimension morale. Pas uniquement une dimension médicale. J'ai rien contre la psychiatrie, mais ça serait, à mon avis, un peu dévalorisant de dire que la seule réponse, alors qu'on a une telle critique de la médicalisation de la société aujourd'hui, serait une réponse médicale. Elle doit être sociétale et voir toutes les ressources qu'on a, nous, dans notre
Bien.
Société.
Merci à tous les trois. Le temps qui nous était imparti est malheureusement terminé. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir dans le débat du Club des Idées.
Europe 1,